Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervan
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Et c'est un documentaire qui est au programme de l'émission d'aujourd'hui, un documentaire qui raconte une histoire oubliée et méconnue, celle de l'île d'Origny, une des îles anglo-normandes, une île qu'on appelait aussi Alderney, et que les nazis avaient baptisée l'île Adolphe. À l'été 40, l'armée allemande envahit les îles anglo-normandes et toute la population de l'île d'Origny fuit vers la France. Les Allemands, dès 1942, décident dans le cadre du projet du mur de l'Atlantique de faire de cette île une forteresse avancée. Et ce sont des prisonniers, républicains espagnols, russes, polonais, allemands, français, marocains, algériens, des asociaux, des résistants, des déportés juifs, qui au sein de quatre camps, particulièrement trois camps et dans des conditions terribles, vont construire de leurs mains, contraints et forcés, ces fortifications sous la surveillance de SS de l'organisation TOT. Avec nous pour en parler, Ludmila Melnikova et Patrick Viret, qui ont réalisé ce documentaire intitulé « L'île Adolphe ». Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez découvert cette histoire? Parce que le documentaire raconte ça aussi, une histoire oubliée, méconnue, une histoire presque enfouie.
C'est vrai que cette histoire, même on peut très bien aller à Origny, qui est donc une île anglo-normande que l'on voit très bien depuis le nez de Jobourg, et on peut y aller en vacances. On va bien remarquer qu'il y a, comme sur la côte normande, quelques blocos, mais on peut très bien passer complètement à côté de cette histoire. Et même, je pense qu'il y a des gens à Origny qui ne sont pas au courant. Il faut dire, comme vous l'avez rappelé, que toute la population, sauf un fermier, en 40, quand les Allemands occupent les îles anglo-normandes suite à la défaite, donc dans la foulée, c'est la partie du territoire britannique, ils sont très heureux, très fiers, ils ont l'impression d'avoir déjà conquis l'Angleterre. Donc il va y avoir une dimension symbolique très forte pour l'occupant par rapport à ces îles. Et donc la population est partie en Angleterre ou ailleurs.
Oui, j'ai dit en France, je me suis trompé.
La plupart du temps, ils seront, je crois, même au Pays de Galles ou en Écosse. Donc il reste un fermier, peut-être encore deux, trois personnes, enfin peu importe. Et après l'invasion de la Russie, Hitler décide de persuader que les Anglais n'ont qu'une idée en tête, c'est de reconquérir les îles anglo-normandes, ce qu'ils vont d'ailleurs lui laisser croire. Donc il n'a qu'une idée, c'est de les fortifier, d'en faire une espèce de place forte inexpugnable, et particulièrement Origny, qui est le point le plus avancé. Et donc, on va commencer par déporter ce que l'on peut déporter. Alors d'abord, la première main-d'œuvre déportable, ce sont les républicains espagnols, parce qu'ils sont déjà dans des camps en France, dans les camps du Sud, les camps du Vernet, etc. Donc ça, c'est ce qui tombe sous la main. Et puis, dans un deuxième temps, ils vont, très peu de temps après, profiter de l'avancée en Russie pour rafler. Rafler comme ça, vraiment, la loi de... Je veux dire, ils rentrent dans les maisons, là où il y a 3-4 jeunes gens, ils en prennent 2. Enfin bon, je veux dire, c'est quelque chose de complètement arbitraire. Parfois, c'est les conseils du village sont réunis pour désigner. Enfin, il y a différentes méthodes, mais au total, voilà, il y a des milliers de jeunes russes ou ukrainiens.
Russes ou ukrainiens, oui, qui sont déportés vers l'île d'Origny. On ne sait pas donc pourquoi il y a deux régions en particulier qui sont touchées. C'est la région d'Aryol. Aryol, c'est une ville à 370 km de Moscou, vers le sud. Et une autre région, c'est en Ukraine, c'est la région d'une ville Soumy. Donc voilà, c'est deux grands groupes de jeunes de 16 à 17 ans. Mais qui seront mélangés également avec les prisonniers de guerre qui sont pris au passage par les Allemands donc, sur leur chemin vers Moscou.
Et comment est-ce que vous êtes retombé sur cette histoire?
Je pense que c'est Patrick qui... Patrick, il a une passion pour les îles anglo-normandes. Et donc, ça vient de lui, l'idée vient de lui. En ce qui me concerne, c'est plutôt la rencontre avec les écrits de Georges Kondakov, un Russe déporté à Origny à l'âge de 16 ans. Enfin, il y avait entre 16 et 17 ans. Et c'est des textes qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Et voilà, c'est parti pour moi, c'est parti de là.
Oui, en fait, moi, je suis normand et donc ça m'a toujours intéressé, d'une façon générale, les rapports que l'histoire et la géographie peuvent entretenir et donc la façon dont l'histoire, la grande histoire, peut se vivre sur une petite géographie. Et très souvent, elle y est encore plus absurde que quand elle a du territoire devant elle. Et là, mais je n'ai en fait vraiment découvert l'ampleur de parce que je savais qu'il y avait eu des déportés à Origny, mais même sachant cela, c'est parce que c'est comme les pièces d'un puzzle. Donc on en connaît quelques bribes. Et quand on commence à essayer d'assembler la chose, on se rend compte que c'est quand même quelque chose de très très important, qu'il y a trois camps, dont l'un, alors après celui de donc les déportations des Russes, des Ukrainiens, qui est une succursale de Sachsenhausen, qui dépend de Neuengamme. Là, ce sont des déportés qui ont au préalable été déportés à l'Est et qui se retrouvent à Origny, c'est le camp de Zulte, donc avec les SS qui vont avec. Et puis alors après il y a la déportation des Juifs marie-dariennes qui va se faire plus tard, qui commence en août 43. Voilà.
Oui, parce que la particularité donc de ces camps qui étaient installés sur cette île n'est pas bien grande.
Non, voilà. 6 sur 4, voilà. Ou même pas.
C'est qu'il y avait entre guillemets tous les laissés pour compte, tous ceux qu'on pouvait rafler, comme vous l'avez dit au début de cette émission, c'est-à-dire qu'il y a des républicains espagnols, il y a des prisonniers de guerre russes, il y a des juifs, alors certains des marie-dariennes, d'autres non, d'autres qui viennent de l'Alsace, de la Moselle. Ouais. Il y a une variété, il y a aussi des gens d'Afrique du Nord, vous avez des Marocains, un Chinois. Vous
dites oui, voilà, alors ça c'est parce que c'est encore un épisode de cette déportation, c'est à la suite de la destruction du vieux port de Marseille, on va rafler toute la population qui est sur place. Donc là, ça peut, effectivement, il y a un Chinois qui est là le mauvais jour, au mauvais endroit, et qui va se retrouver à Origny. Mais sinon, effectivement, donc là, cette catégorie des Juifs marie-dariennes forme une catégorie qui, a priori, n'est pas déportable à l'Est. Ceci étant, un certain nombre vont l'être néanmoins parce qu'il fallait fournir les certificats de baptême d'au moins trois parents de l'épouse, donc ce qui n'était pas facile en plus au niveau des transmissions à l'époque. Donc un certain nombre vont l'être, déportés à Auschwitz. Et inversement, des jeunes mosellans ou alsaciens, qui ne sont pas du tout conjoints d'Ariane, vont se retrouver, eux, déportés à Origny. Voilà, probablement parce qu'ils sont plus jeunes et donc pour rajeunir un petit peu pour rendre l'ensemble plus productif.
Là, il y aura aussi des résistants normands.
Aussi, à la fin. Voilà. Ça, c'est tout à la fin, vraiment. Un mois avant, il y a un convoi et il y a encore un convoi de républicains espagnols qui ont été les premiers à être déportés, sur l'île et qui seront les derniers, curieusement. Ça fait un petit convoi d'une quelques dizaines de républicains espagnols qui arrivent la veille du débarquement sur Origny.
Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que donc ces prisonniers, ces déportés, sont sur cette île pour la fortifier, pour construire une fortification gigantesque.
Une espèce de porte-avions. Enfin, de porte-avions, il n'y a pas d'avion. Enfin, si, il y avait un aéroport. Mais enfin, je veux dire, c'est truffé de béton. Et là, c'est extraordinaire de voir comment la nature, aujourd'hui, enfuit tout ça. Enfin, on est déjà dans un rapport. Je me souviens de quelqu'un qui voulait absolument me montrer ce qu'on pourrait appeler une fresque peinte à l'intérieur d'un blockhaus par des soldats allemands. Et impossible, il lui était impossible de retrouver l'entrée de ce blockhaus. Puis finalement, on a réussi à le retrouver, mais alors qu'il est complètement recouvert de ronces. Enfin, alors que c'était un gros bâtiment, quoi. Donc on peut, c'est pour ça qu'on peut aujourd'hui passer complètement à côté, quoi.
Je peux peut-être rajouter que pour Hitler, c'était très important et hautement symbolique de détenir cette île, parce que pour lui, bon, ben, ça y est, il était presque en Angleterre.
Voilà. Bien sûr.
Et inversement, donc, il pensait que les Britanniques allaient attaquer l'île et il allait essayer de reprendre l'île. ce qui n'est jamais arrivé. Donc, ils s'attendaient vraiment, ils s'attendaient à une espèce d'attaque massive comme ça, d'où l'envergure des travaux, la démesure et la folie de ces travaux, parce que bon, c'est jamais arrivé. Tous ces travaux, voilà, c'est une forteresse complètement absurde, mais bon, comme,
oui, jamais,
comme
jamais,
la guerre.
Jamais un lieu ne fut aussi bien défendu qui fut en même temps aussi peu attaqué. Voilà, c'était une disproportion totale.
Alors, vous avez évoqué, Ludmila Melnikova, au début de l'émission, des lettres de Guéorgui Kondakov, des lettres qu'on entend dans le documentaire, des lettres qui sont très belles. Donc, c'est un de ces Russes qui a été déporté dans cette île. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce personnage et puis nous dire comment vous avez retrouvé ces lettres ?
Ces lettres étaient publiées
par Brian Bonnard, qui est un historien venu s'installer, voilà. Anglais venu s'installer à Origny, et qui, lui, a fait ce travail, a été le premier, enfin, un des premiers à faire ce type de travail.
Et j'ai repéré le nom, et comme j'étais impressionnée par ses souvenirs et par ce travail de mémoire, qui était assez inattendu de la part d'un déporté russe, puisque c'est un sujet qui n'est plus aussi tabou qu'avant, mais quand même dans les années 90, en Russie, on n'en parlait pas. Et c'était des gens qui ont gardé le silence, parce qu'il ne fallait surtout pas dire qu'on a travaillé où on a été pendant la guerre. Donc on n'était pas du bon côté. Et Guéorgui a entrepris un travail phénoménal tout seul, parce que en fait, le déclic part de son questionnement sur l'île et où est-ce que j'ai été. Donc, il veut apprendre un petit peu plus sur sa propre histoire. Et publie un article, il écrit dans un journal de l'époque, Komsomolskaya Pravda. Et il y a une journaliste qui s'intéresse à sa lettre. Donc, voilà. De lui-même, il va aussi sillonner la région d'Aryol en essayant de retrouver ses anciens co-détenus. Donc, il va en trouver une centaine de personnes qui, dans les années 90, étaient encore en vie, ce qui n'est plus malheureusement le cas maintenant. Donc, voilà.
Oui, parce qu'effectivement, dans cette lettre que vous évoquez, qui est la lettre qu'on entend au début du documentaire, on l'entend, il est dans une manifestation où il y a différents stands, et il voit un stand où il y a des Anglais, il se dit, je vais pouvoir leur demander, j'ai été déporté sur une île, une île anglaise. On lui dit, mais non, l'Angleterre n'a été, n'a jamais été...
Donc il est un petit peu, quelque part, c'est déjà difficile de vivre ces événements, quand on a vécu des événements comme ça, et... quand on a en plus, on se retrouve face à un déni par rapport à son propre vécu. C'est pas un cas unique, il part à la recherche. C'est un déclic. Il cherche à savoir sur sa jeunesse, en fait. Parce qu'à l'époque, déjà plus de 60 ans.
C'est une histoire en fait inouïe qui était en plus inaudible. Donc ça a été. Ouais.
Surtout en URSS, oui, parce que bon, c'est des gens qui étaient considérés, dès leur retour en Union soviétique, de l'époque, ils étaient considérés comme pratiquement des traîtres.
Oui, parce qu'il faut le dire, ils ont eu un destin terrible, c'est-à-dire que ces jeunes gens, très jeunes pour la plupart, qui ont été déportés, dans ce cas-là, dans l'île d'Origny, qui ont effectué des travaux de force monstrueux, dans des conditions épouvantables, de retour en URSS, ont assez vite, 3-4 ans après, ont été déportés par Staline.
Exactement.
En tant que traîtres, parce qu'ils avaient collaboré, entre guillemets, bien sûr, avec les Allemands.
Parce qu'en fait, effectivement, ce qu'il faut dire, que c'est pas, comment dire, là, du côté de Staline, il n'y a pas de système non plus. C'est des gens qui rentrent. Ils sont rapatriés, donc c'est des camps de filtration, de tri de l'autre côté, en Union soviétique. Certains, comme Nicolas,
celui qui témoigne dans le film.
Oui. Voilà, donc Nicolas Verezhnikov, lui, il a plus de chance, il se retrouve, entre guillemets, parce qu'il se retrouve dans un bataillon de travail. Et il travaille pendant 3 ans sans même enfin, sans pouvoir partir en vacances, voir la famille. Donc, il va directement
travailler. Mais il n'est pas au goulag.
Il n'est pas au goulag, voilà. Mais bon, c'est l'armée, hein, donc. Pour Georgi, c'est un peu plus compliqué parce qu'au moment de la libération, enfin, libération, c'est... il se retrouve dans la résistance et il combat à côté des Français.
Alors là, c'est impardonnable.
Et curieusement, c'est ça qui joue contre lui quand il retourne dans son pays. Au bout de 2 ans, en 1947, il y a une espèce de campagne comme ça contre tous les, comme on disait à l'époque, tous les éléments pas homogènes, donc. Et lui, il est considéré comme tel parce que il a gardé une espèce de passion pour la France, pour ses... anciens, enfin, amis combattants, il a un béret qu'il porte, donc il parle du fromage qu'il a goûté, donc c'est... évidemment, ça ne peut pas passer, et lui, il se retrouve dans le goulag. Mais on lui laisse le choix. L'agent du NKVD lui propose, en fait, il y a 2 options. Il lui propose soit d'aller comme politique, et alors là, on ne sait pas si on revient, c'est donc très compliqué, et soit d'aller vraiment d'aller dans un camp, mais comme une affaire...
droit commun.
Droit commun, voilà. Et il choisit droit commun pour...
il suit le être, conseil.
Voilà, il suit le conseil parce qu'il sent que bon, voilà, c'est sa vie qui se joue en 47, quoi.
Alors, il faut évoquer aussi, Patrick Viret, le destin. Et c'est ça qui est peut-être le plus intéressant dans cette histoire. Donc, effectivement, de ces hommes qui se retrouvent pendant quelques années à travailler à marche forcée. Est-ce qu'on sait d'ailleurs à peu près combien de personnes, j'ai l'impression que ça aussi, c'est très flou, combien de personnes ont travaillé sur cette île et puis combien sont morts?
Alors, c'est très compliqué à déterminer parce que, bon, par exemple, si on cite Nicolas Verejnikov et d'autres sources, les morts qui tombaient enfin, comme des mouches à un moment donné sont jetés à la mer. Donc il n'y a pas de traces.
Au début, oui.
Au début, jusqu'en 1942, jusqu'à Noël 1942. Puis là, il y a un nouveau commandant de l'île générale, plus il y a des motivations écologiques et qui trouve que ce n'est pas hygiénique. Et donc, ils vont commencer à enterrer les déportés décédés. Verejnikov disait que dans son camp, les baraques contenaient à peu près 120 personnes. Il y avait une dizaine de baraques. Bon, à la fin, il en restait une et demie. Quoi. Voilà, donc ça donne quand même une idée de ce qui se passait. Pour les déportés républicains espagnols, on n'a aucune idée, aucune trace. On n'a plus de témoins. Enfin, il faudrait des recoupements de fourmis pour y arriver. C'est très compliqué de donner des chiffres par rapport à ça. Alors après, il s'est trouvé que... bon, après, il y avait effectivement le cimetière. On a retrouvé il y avait des fosses, il y avait des choses comme ça. Bon, on peut faire un travail comptable, mais enfin, bon, c'est...
Oui, et ce qu'il faut dire, donc, c'est qu'effectivement, à l'issue donc, de la fin de la guerre, certains des déportés sont mis dans des trains par les Allemands pour aller voilà. vers d'autres lieux de déportation.
Voilà, alors là effectivement, beaucoup vont parvenir à s'échapper. Alors pour ce qui est du camp de Zult, donc des déportés qui venaient auparavant d'autres camps comme Dachau, etc. Ceux-là vont... Mais il va y avoir quand même... Il y a une grande désorganisation, les trains tirent des bords, enfin je veux dire, mettent un temps fou. Ils mettent 2 mois en fait. En plus, ceux-là partent après le débarquement. Donc la résistance fait sauter les voies, enfin c'était très très long. Et donc il y a beaucoup de tentatives d'évasion qui réussissent pour une part. Et finalement, je ne sais pas quelle est... Mais ils vont quand même aboutir au final, en passant par la Belgique, ils vont finir par se retrouver dans un camp en Autriche, en fait, avant d'être libérés par les Américains. Pour les Juifs du camp de Nord-Ornais, eux vont un certain nombre vont s'échapper. Et puis, c'est en Belgique, en fait, le dernier train qui devait partir vers Neuengamme est arrêté par la résistance belge. Donc, l'histoire s'arrêtera là. D'ailleurs, c'est une chose un peu étrange, fait partie des hasards, des dénominations. Quand ils sont déportés depuis la France, ils sont stationnés avant de traverser la Manche. Ils sont dans la banlieue de Cherbourg, à Kerqueville, dans une caserne qui est la caserne d'Ixmude. Et c'est à Dixmude, dans la ville belge, qu'ils seront finalement libérés. Fait partie des hasards et des concours de circonstances.
Alors, il faut raconter aussi le destin mémoriel de ces prisonniers qui sont finalement dans un espèce de vide juridique, vous dites dans le film, qui ne sont ni vraiment des déportés de persécution, ni vraiment des déportés de répression, donc qui ne sont finalement pas vraiment répertoriés, pas indemnisés, pas reconnus. Mmh. Et puis, ce qui est peut-être le plus absurde, le plus tragique pour certains, les corps ont été effectivement donc déterrés, voilà. Et joints à des cimetières allemands. Donc là, ils sont enterrés en tant que soldats allemands, entre guillemets.
C'est-à-dire que rien ne les désigne. Donc le principe a été celui de l'amalgame. Les îles ont géré les choses chacune différemment, mais pour Origny, au moment de la guerre froide,
c'est début des années 60, en fait.
Voilà, donc ils décident, puisqu'il y a quelques Allemands qui sont morts aussi sur l'île, ils en profitent pour se débarrasser finalement de tout le cimetière. Au départ, l'idée, c'est que les Allemands morts sur les îles aille au cimetière allemand qui est celui de Huisnes-sur-Mer, près du Mont-Saint-Michel. Mais bon, il est évident que les déportés n'ont pas grand-chose à y faire, si on peut dire. Et en plus, alors là, j'étais complètement, je vous l'avoue, complètement stupéfait, parce que, bon, déjà, ça paraît une option assez incroyable, mais je m'attendais au moins à ce qu'il y ait une plaque, enfin quelque chose qui désigne quand même la différence.
Qui les différencie.
Et pas du tout. Et pas du tout. Donc, et en plus de ça, ça on le montre dans le film, au milieu de ces noms de toutes origines, on va parfois avoir une plaque qui a un Deutscher Soldat, un soldat inconnu en fait. Hein, donc, pour quelqu'un qui visite ce cimetière, que peut-il en déduire? Enfin, ce qu'on dit dans le film. Une sorte de légion étrangère enrôlée post-mortem. Alors bon, je trouve, enfin voilà, si le film pouvait contribuer à faire changer les choses.
Oui, c'est ça, une des choses qui est très frappante dans cette histoire. Et l'autre chose qu'il faut souligner, c'est l'impunité dans laquelle les dirigeants des camps ont été laissés après-guerre.
Oui, la justice n'a pas été faite comme... historien allemand.
Alors ceux du camp de Norderney, les deux comparses qui étaient, on va dire plus des gangsters
ils étaient responsables, mais à leur petit niveau.
David Tratt les compare à des gangsters, quoi. Alors que dans le camp de Zoult, il y avait les pires sadiques possibles. Bon, là, c'était peut-être un peu différent. Eux ont été condamnés, 7, 5 ans, je sais pas. La justice, quand même, a été faite. C'est-à-dire que, du coup, Norderney est le seul des trois camps à avoir quand même le statut de camp de déportation.
Grâce aussi à l'effort de l'amicale.
Oui, bien sûr, parce que l'amicale s'est constituée très, très, très rapidement. Et justement, ce qui évidemment ne pouvait pas être fait en Russie.
Merci encore Ludmila Melnikova et Patrick Viret. Je rappelle donc que vous avez réalisé ce documentaire L'île Adolphe et qu'il sera diffusé sur France 3 Normandie le mercredi 28 mars à 23h50 sur un sujet rare, on l'aura compris. Et il y aura aussi une projection à Origny, vous avez prévu cela?
Voilà, a priori j'espère que le 16, qui est le jour de la libération tardif de l'île, on pourra présenter dans sa version sous-titrée en anglais, et comme ça les participants de l'île qui nous ont accompagnés en ce film pourront le voir. Et donc, ce sera une première. C'est la semaine de toutes les premières.
Merci encore. C'était Mémoire Vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Deux adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet. www.radio-rcj.info, le site des archives de l'émission www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.